hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir, Barthes numéro 4.
Seul à ne pouvoir parler vraiment de moi, et l'adjectif vraiment est important, ça veut dire qu'au fond, je ne suis moi-même qu'une sorte de collection d'images qui me sont renvoyées en miroir par la société, par mes lecteurs, et ce sont donc eux qui ont la vérité sur moi. Je suis en quelque sorte, moi, en tant que moi-même, une espèce de zone extrêmement opaque ou fuyante d'opacité, de méconnaissance de moi-même.
Barthes numéro 4 avec Colette Fellouz et Bernard Comment, et tout d'abord, comme chaque soir, une réaction à ce que vient de dire Roland Barthes. Comment l'entendez-vous? Comment le comprenez-vous?
Oui, moi j'aime beaucoup ces mots opaques et fuyants quand il dit qu'il n'arrive pas à être lui-même, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a toute la présence de Roland Barthes dans ce qui vient d'être dit, parce que c'est à la fois cette envie de dire je, et en même temps tout ce qu'il enrobe, et en même temps tout ce qu'il veut qu'on soit, c'est-à-dire une collection aussi du réel, hein, qu'on soit poreux en fait au réel. Donc il y a cette guerre entre comment être je, être moi, et comment aussi garder cette opacité, et cette quand il dit fuyant, c'est pour moi aussi son élégance, hein, ce léger retrait, et c'est voilà, c'est un plaisir d'entendre ça, parce que je crois que ça le définit vraiment.
Oui, je crois que ce retour au jeu qui était assez surprenant à l'époque quand même, puisqu'on est quelques années après la grande période de la mort de l'auteur, et ce petit extrait nous dit bien que ce retour au jeu ne s'est pas fait dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire, c'était pas juste l'affirmation d'un ego, c'était au contraire avec une pensée imprégnée, fortement imprégnée quand même de la psychanalyse. Un retour au jeu qui serait dans une extrême conscience que, au fond, on n'existe que par les autres. Ça, c'est évidemment d'inspiration lacanienne. Mais on retrouve aussi Proust, hein. C'est très proustien cette phrase, et je crois que on a les deux éclairages majeurs peut-être du Barthes de cette époque, c'est-à-dire un grand retour à Proust dans son interrogation sur ou dans son fantasme sur l'idée d'écrire un roman qui ne serait évidemment pas un roman ni proustien ni classique, et puis l'interrogation de ce jeu qui sera tantôt un jeu amoureux avec les fragments d'un discours amoureux, tantôt un jeu endeuillé, comme ce sera le cas à la fois avec La Chambre claire et avec ce qui, de façon très posthume, sera ensuite publié sous le titre de Journal de deuil.
Alors, ce soir, nous allons parler, je ne sais pas si on peut employer ce terme d'héritier ou d'enfant de Barthes ou de fan de Barthes. Comment vous définiriez-vous tous les deux ?
Moi, je crois que j'aime bien le mot enfant de Barthes, parce que dans mon parcours, dans tout ce que j'ai vécu, entre l'enfance en Tunisie jusqu'à 17 ans, et puis après la rencontre de Paris, de la France, de la littérature, mes années d'étudiant, Barthes, donc j'avais 22 ans quand je suis arrivée au séminaire de Roland Barthes, aux hautes études, rue de Tournon. Pour moi, toutes ces années, j'ai passé 4 ans à être... avec lui, à le regarder penser, à ce qu'il nous regarde, lui aussi, s'éveiller. Et pour moi, c'est aujourd'hui en tout cas, c'est pour ça que j'ai eu envie de revenir vers cette présence, cette voix, cette force qu'il avait. Pour moi, c'était presque, j'ose le dire, c'est plus fort que mes parents. C'est-à-dire qu'il m'a, il m'a non seulement guidée, mais il m'a donné une façon de regarder le monde. Il m'a éduquée, voilà, il m'a éduquée. J'étais plus une enfant, mais aujourd'hui, je crois que je suis, oui, je peux dire que je suis une enfant de Barthes et j'ai envie de parler, voilà, de lui, de dire l'importance qu'il a eue à la fois dans l'époque, comme dit Bernard, mais aussi pour chacun de ses lecteurs ou de ses élèves et encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, c'est très important, la présence de Barthes aujourd'hui dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est pour moi, il m'aide beaucoup. Voilà, il m'aide à vivre.
Bernard ?
Moi, le mot que je revendiquerais, c'est élève, au sens d'avoir été élevé par lui, au sens d'élévation hein, aussi. C'est-à-dire, moi, j'étais très jeune quand j'ai découvert le texte de Barthes. C'était d'ailleurs merveilleux, parce que j'avais 15 ans, j'ai découvert en 75.
Quel texte ?
J'ai commencé par le degré zéro de l'écriture, que m'avait conseillé mon professeur de français au lycée. Et j'avais eu un émerveillement devant ce texte, sans être sûr d'en tout comprendre, mais une espèce d'émerveillement par rapport à une intuition que j'avais qu'on n'était pas si libre que ça dans le langage. Et ce livre donnait beaucoup de clés, et notamment la clé que on ne pouvait pas faire l'impasse sur un questionnement du langage. Par rapport à toutes les questions de l'engagement qui se posaient à l'époque, c'était évidemment extrêmement déterminant. Et donc, c'était d'autant plus un émerveillement que, aussitôt ce livre lu, je suis allé chez mon libraire, qui était en face du lycée, et j'ai découvert qu'il y avait plein de livres de Barthes. C'était merveilleux, parce que je pouvais en commander toutes les deux semaines, et puis ça arrivait, comme ça. C'était comme un enfant dans une pâtisserie, où tout était là. Et il se trouve que, voilà, par le hasard de la vie, ensuite, je lui ai écrit, on s'est vus, et effectivement, il avait cet extraordinaire génie de la clarté dans les zones les plus complexes. Pour moi, c'est ça la grande générosité de Barthes. Je trouve que récemment, je réécoutais des séminaires ou des conférences de Jacques Lacan. Ils ont été deux éclairages extrêmement importants, mais tout à fait différents. Autant Lacan est dans la position du maître qui envoie comme ça des messages à décrypter, autant Barthes pouvait se saisir d'objets conceptuellement complexes, mais les déployer et nous donner les moyens de s'aventurer dans toutes sortes d'interrogations. Et ça, cette main tendue était celle d'un extraordinaire professeur d'intelligence et professeur de vie aussi, puisqu'il n'y avait pas de découplage entre le savoir et la vie impliquée par ce savoir.
Alors nous allons parler de la première fois, parce que je crois qu'avec Roland Barthes, il y a une première fois déterminante. Dans votre livre, très beau livre, Colette Fellouz, qui s'intitule « La préparation de la vie », voici ce que vous écrivez. « J'appelle, je prends rendez-vous, je vois peu de choses de ce moment, juste un sourire courtois et un air amusé, zébré de curiosité. Roland Barthes me reçoit au milieu de l'après-midi, rue de Tournon, dans la pénombre d'un bureau. Il me confirme que cette année, il voudrait n'enseigner qu'à de petits groupes et il ne peut vraiment pas dépasser le nombre d'étudiants, il est désolé. » Je découvre son sourire à la fois timide, délicat et affectueux, sa voix calme et précise. Il regarde attentivement ma déception, légèrement de biais, ne dit rien d'autre. On dirait qu'il attend quelque chose, un signe, une vraie raison, quelque chose de plus personnel peut-être, je ne sais pas. Le silence est si long, je suis perdue. Je dis que je comprends, mais que pour moi c'est essentiel d'être là. Je me ferai très discrète, je ne vous dérangerai pas, c'est très important, je vous assure. Finalement, vous êtes arrivée à rentrer.
Oui. Je lui ai dit juste après cette phrase, j'ai juste besoin d'une présence lointaine parce que j'étais paniquée. Je voyais l'homme avec qui j'avais envie, enfin le professeur, l'auteur, l'écrivain, tout ce que j'avais envie de rejoindre, en fait, dans ces années, me dire non, je suis désolée, il n'y a pas de place. Alors, il fallait que je trouve quelque chose, une phrase qu'il attendait sans doute. Et je lui ai dit, j'ai juste besoin d'une présence lointaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'était à la fois vrai. Mais cette phrase-là a fait se transformer son visage et il a souri, un peu amusé. J'ai cru que j'avais dit une chose ridicule. Bon, j'étais un peu confuse. Mais lui, au contraire, il a cette chose. D'ailleurs, Bernard, hein, vous vous souvenez de ça, cette façon de se métamorphoser très vite, en quelques secondes, son visage rayonne et il y a une clarté, un rire. Et il m'a dit, alors là, dans ce cas-là, d'accord, j'accepte. Et cette toute petite distance dans son visage entre l'ennui, entre le tracassé, il n'a pas envie d'être embêté ni par ses étudiants, ni par personne. Et tout à coup, la vie comme ça, et le désir et la joie. Donc là, j'étais sauvée. il m'a accepté dans le séminaire. Et c'est vrai, quand Bernard dit, avec comme tous ses livres, comme dans une pâtisserie, je trouve que ce qu'on peut dire aussi de Barthes, c'est qu'il nous a donné le goût, justement, de la gourmandise du réel. C'est-à-dire que tout à coup, et c'est ça qui est beau dans un jeune étudiant, comme ça, qui arrive avec les études, tout ça, tout à coup, il y a quelqu'un qui vous dit, mais ce que vous vivez, votre vie, tous les objets, tous les moindres détails, comme les grandes choses, les petites et les grandes choses, sont à épeler, à découper, à ouvrir, à disséquer. Et là, il y a une joie qui arrive et il nous a donné le bonheur, en fait, de la culture. C'est-à-dire que la culture sans plaisir, ça n'existe pas pour tous ces... voilà, moi j'ai cette théorie de la chose qui est que c'est infini de, à la fois de vivre, de ce lien aux autres, mais aussi aux textes, aux objets, enfin tout s'amplifiait et le monde devenait extraordinaire, à la fois à l'écouter lui, mais nous aussi à tenter de faire pareil. Donc il y avait moi j'étais dans les années du plaisir du texte, donc c'est il y a eu le plaisir du texte, il y a eu les fragments d'un discours amoureux, il y a eu le Roland Barthes par lui-même, et donc on a assisté à la naissance de ces textes par ce petit séminaire où il parlait pour nous, et nous on l'aidait en l'écoutant, on l'aidait, mais aussi dans notre coin, on tentait aussi d'être, en tout cas d'exercer le même regard qu'il avait sur le monde, nous aussi dans notre monde, et ça nous donnait une grande joie et, comme il disait, une circulation de désirs amoureux. On était tous amoureux les uns des autres, de la pensée des autres comme du visage des autres, et c'était ce visage qui nous guidait, et surtout sa voix aussi.
Oui, mais j'étais beaucoup plus jeune quand je l'ai rencontré. Oui, j'avais 17 ans. C'était d'ailleurs un peu incongru. Je me souviens de la première fois que j'ai entendu sa voix, parce qu'il m'avait répondu par une gentille lettre. On avait déjà eu quelques échanges. Et il m'avait livré cette formule. Il m'avait dit « Escalier A, deuxième gauche ». Et pour moi, qui venait quand même d'une très petite ville où il n'y avait pas d'escalier A ni d'escalier B, c'était déjà assez mystérieux. Alors j'avais trouvé l'escalier A, mais dans l'émotion, je me suis trompé et j'ai sonné plus haut. Et c'est quelqu'un comme ça d'assez grand qui est venu répondre. Je lui ai dit, Monsieur Barthes, il m'a dit non, c'est pas ici. Il m'a dit, mais c'est peut-être le philosophe qui habite à l'étage en dessous. Et avec ma naïveté de 17 ans à peine, je lui ai dit, non mais il n'est pas du tout philosophe, il est sémiologue. Et alors là, le monsieur m'a dit, mais je ne peux rien pour vous. Donc je suis redescendu en bas, j'ai repris mes notes et puis finalement j'ai trouvé et c'est lui-même qui est venu répondre. Et je pense que voilà, c'était un peu inattendu pour lui parce qu'il ne devait pas du tout imaginer que j'avais même pas 17 ans et j'avais un gros enregistreur pour faire un entretien avec lui. Il m'avait dit le matin qu'il serait peut-être un peu fatigué parce qu'il avait une soutenance de thèse. Et bon, on s'est installé dans son bureau et je lui ai dit, peut-être vous voulez regarder les questions. Et j'avais préparé des questions terribles. Je veux dire, chaque question faisait à peu près une page. Ça reprenait tout, enfin voilà, avec le zèle qu'on peut avoir à cet âge. Et il m'a dit, avec toute sa gentillesse, il m'a dit, vos questions sont très pertinentes, mais là je suis peut-être un peu fatigué pour y répondre. Et alors moi j'étais complètement navré quoi, un monde s'écroulait. Je lui dis ben je vais vous laisser. Alors et il m'a dit mais non pas du tout, on peut parler. Et il a été cet homme extraordinairement bienveillant, gentil, avec ce sourire très amical immédiatement, dont on garde tous ceux qui l'ont côtoyé le souvenir, et qui est en contraste avec, je dirais, malgré tout, la violence qu'il y a autour du personnage. La violence qu'il a instaurée lui-même et la violence qu'il accompagnait. On le voit aujourd'hui encore. Ce n'est pas un terrain pacifié, Roland Barthes. C'est quand même encore quelque chose qui agite soit des rancœurs, soit des reproches.
Par exemple ?
On le taxe de quelqu'un qui s'est adonné au mode d'anti-humanisme. Cette histoire de mort de l'auteur a quand même fait beaucoup de bruit. Vous savez, quand on a cet âge-là, mais même dans la vie en général, quand on admire absolument quelqu'un, on aimerait que tout le monde l'aime. Et on est très blessé de constater que pas du tout. C'est-à-dire, c'était quand même un espace polémique, mais que lui-même a instauré. Parce que derrière cette réelle douceur qu'il avait dans la vie, sa pensée est violente. Les mythologies, c'est une façon de prendre la France à rebrousse-poil. Le Racine, qui a l'air comme ça d'un petit livre, qui est essentiellement un recueil de textes, touche au sacré français. Toucher à Racine, réinterpréter Racine, c'est toujours un objet de polémique. Et puis, pour moi, c'est une pensée extraordinairement courageuse. C'est une pensée qui va voir là où personne ne va, en général. Notamment l'extraordinaire plongée dans l'univers on ne peut plus intime de la lecture. Le SZ, l'analyse d'une nouvelle de Balzac intitulée Sarrazine, mais analyse phrase par phrase, lexie par lexie, peut paraître à premier abord un texte alambiqué, mais c'est un extraordinaire déploiement de tous les mécanismes les plus intimes de ce qui se passe comme résonance à l'intérieur de la tête d'un lecteur. Personne n'était jamais allé voir ce continent noir de la lecture et des mécanismes de la lecture. On l'a domestiqué par des approches historiques ou sociologiques, mais entrer dans l'expérience de la lecture, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau. Quand il fait le Roland Barthes par Roland Barthes, c'est un contre-pied énorme. C'est un courage incroyable. Dans la pensée de l'époque, revenir sur soi-même pour faire un autoportrait, c'est quelque chose d'absolument vertigineux, dont on mesure peut-être plus aujourd'hui toute l'audace, mais qui est considérable.
D'ailleurs, on ne connaît pas d'autres tentatives depuis.
Non, mais non, parce que c'était... Alors, on peut y voir évidemment les signes avant-coureurs de l'autofiction, mais on n'est pas de l'autofiction, hein, on est quelque chose dans quelque chose
dans un objet théorique aussi.
Dont la phrase qu'on a entendue en début d'émission donne un peu la teneur. C'est un objet théorique, c'est une approche extrêmement complexe de soi-même, mais accepter de le faire, c'était quand même s'engager dans un terrain extrêmement miné, piégé. Et puis les fragments d'un discours amoureux, on est quand même dans les années 70, qui sont des années du discours de la sexualité, et il nous parle du cœur. Il prend le modèle de Werther et il prend tout à contre-pied. Et puis jusqu'au bout, la chambre claire, qui est devenue la référence obligée de tout texte aujourd'hui sur la photographie, est quand même un texte d'une violence inouïe contre le photographe, puisque la seule photo qui l'intéresse, c'est la photographie, sans le photographe. Et tout le livre est une évacuation obsessionnelle du photographe comme porteur d'une intentionnalité que Barthes ne veut pas voir. Ce qui l'intéresse, c'est, dès les mythologies, les photoshocks, c'est-à-dire des photos d'agence où on ne voit pas le photographe, où on ne voit aucune intention artistique, et jusqu'au bout, il affirme ça, et finalement, il exhume pour cette grande traversée du deuil une photo presque d'amateur, qui est celle de sa mère enfant dans le jardin d'hiver.
Nous allons l'écouter, c'était le 21 février 77, au micro de Jean-Marie Benoît, définir le mot littérature.
La question de la majuscule est très importante, vous mettez le doigt sur un point très sensible, parce que il faut voir le mot un peu. Le mot littérature, c'est un mot relativement récent. Disons qu'au point de vue de l'histoire des mots, c'est un mot qui date peut-être... tout au plus de la fin du XVIIIe siècle. Et avant, on ne parlait pas de littérature, on parlait de lettres, de belles lettres, d'humanité, etc. Alors, il s'est trouvé qu'à travers tout le 19e siècle, et renfloué évidemment par des valeurs qu'on appelle maintenant très classiquement une idéologie bourgeoise, enfin soutenue par la société et la démocratie bourgeoise, le mot littérature est devenu vraiment un mot pourvu d'une majuscule, dans la mesure où c'est devenu, pendant très longtemps et jusqu'à il n'y a pas longtemps, un mot valeur. C'est un mot qui avait un pouvoir de valeur, et qui était très lié d'ailleurs à tout un appareil institutionnel, soit à travers des académies ou des groupements, pour ainsi dire, professionnels d'écrivains, soit à travers l'enseignement de la littérature, très important dans l'enseignement secondaire français, soit à travers tout simplement le commerce. Et c'est justement parce que le mot littérature s'est trouvé en quelque sorte compromis un peu dans cet appareil institutionnel assez marqué, sinon politiquement, tout au moins idéologiquement, qu'on l'emploie maintenant avec méfiance. On a une espèce de sentiment honteux vis-à-vis de la littérature, et on parle plutôt maintenant d'écriture ou de texte. La littérature ayant été emportée dans la critique de l'humanisme. Maintenant, on peut se demander si la littérature étant descendue en tant que mot tellement bas dans l'échelle des valeurs, on ne peut pas en quelque sorte le reprendre. Et ça serait un petit peu l'idée que j'aurais. L'histoire se charge toujours de reprendre les choses, mais disons à une autre place, selon un mouvement en spirale. Et j'aimerais bien qu'au fond, qu'on reprenne le mot littérature dans un mouvement un peu spiraloïde, et qu'on revienne à la littérature.
Alors on peut dire que ces propos résonnent étrangement en 2015, parce que c'est vrai qu'il a été l'homme de la prédiction. La littérature, finalement, elle est considérée comme quelque chose de très bas aujourd'hui, hélas, et de plus en plus. Alors par rapport à l'écriture, tout à l'heure, Bernard Comment, vous disiez que quand vous aviez été frappé à la porte de la première fois de Roland Barthes, et que le voisin vous a dit c'est un philosophe que vous cherchez, vous avez dit non, c'est un sémiologue. Comment vous le qualifieriez? Lui-même disait que c'était un homme du bord, de la bordure, là où vouloir peut brûler, qu'il a récusé tout système qui pouvait l'enfermer. Et pourtant, est-ce que l'écriture se heurte à l'impossible? Qu'est-ce qu'il a cartographié de l'écriture dans le XXe siècle et pour le XXIe siècle, selon vous?
Pour moi, il est un écrivain, avant tout.
Écrivain.
Un écrivain qui a réfléchi sur ce que c'est que l'écriture. C'est une espèce de constant évaluateur des enjeux contemporains. C'est quelqu'un qui déploie, interroge, critique la grande machine du sens. Cette machine du sens qui peut sembler une évidence, et c'est quelqu'un pour qui justement il n'y a jamais d'évidence. Dès les mythologies, tout son travail consiste à défaire les évidences, le sens commun, tout ce qui semble aller de soi.
Dans la langue, c'est par la langue qu'il interroge la signification.
Et la littérature pour lui est une puissance qui va dans ce sens, de l'interrogation, de la mise en question ou de la mise en crise des automatismes du langage. Et ça, c'est évidemment extrêmement important. Aujourd'hui, la littérature n'est pas décriée, mais j'ai parfois l'impression qu'elle est mal défendue aussi. Récemment encore, je voyais des grands articles dans un quotidien de l'après-midi qui disaient « La littérature, c'est ». La littérature, ça doit être, la littérature, ce n'est pas. Mais tout ça sur un ton extrêmement déclaratif, incantatoire. Or, c'est le contraire qu'a fait Barthes. Jamais d'incantation, jamais de grande déclaration.
Jamais de jugement.
Jamais de jugement, mais au contraire, une façon d'entrer dans la littérature et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment opère la magie de la littérature. Qu'est-ce qui se passe? Et cette exploration de la littérature, au fond, il va nous permettre de relire ainsi un nombre incalculable de textes. Je pense qu'il a totalement renouvelé non seulement notre vision de Racine, mais de tout le 19e siècle.
Rousseau, Balzac.
Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où il est qui est Z, Balzac est très décrié. Il était d'un côté confisqué par la critique communiste et de l'autre vilipendé par toutes les théories autour du nouveau roman, comme vraiment le contre-modèle. Il fallait faire tout sauf du Balzac. Eh bien, Barthes se saisit de Balzac pour essayer justement de comprendre toute la part de mystère qui demeure dans cette machine du sens de la littérature. Et au fond, pour lui, la littérature, c'est ce qui ne se réduit pas au sens. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très puissant pour quelqu'un qui voit bien toutes les manipulations de sens qui ont lieu dans la société dans laquelle il vit.
On n'a pas parlé de Michelet.
Ah bah oui, c'était son grand...
Michelet et Marx.
Grand auteur, oui.
Je crois qu'on ne peut pas découpler dans sa formation intellectuelle Michelet de Marx, lu l'un et l'autre dans des conditions qu'il faut rappeler, c'est-à-dire celles du sanatorium.
Oui, donc il faut que vous précisiez, Bernard, qu'effectivement... Barthes a eu une enfance et une adolescence très difficiles sur le plan de sa santé, de son apprentissage du monde, qu'il a perdu son père à l'âge de un an, qu'ensuite il est tombé malade et qu'il s'est trouvé soustrait à la vie commune des étudiants puisqu'il a été obligé de vivre dans un sanatorium. Est-ce que cela, à votre avis, a été déterminant pour la capture qu'est la lecture ?
Moi, je pense en tout cas qu'intellectuellement, on sait que c'est précisément dans ces longues années de sanatorium qu'il a ce temps très long, ce temps un peu mélancolique de l'isolement. Et donc, il s'adonne à des lectures, et à des lectures systématiques. On sait qu'il lit Michelet et qu'il le met en fiche. C'est-à-dire, il constitue sa méthode de travail de la fiche à ce moment-là. Il lit aussi Marx. Et c'est intéressant de constater que cet homme... si intéressé par l'histoire, va précisément se constituer un socle intellectuel de lecture dans un moment où précisément il est protégé et exclu d'une phase fondamentale de son histoire contemporaine, à savoir la guerre, l'occupation. Il va vivre ce moment historique comme une parenthèse isolée de sa vie. Et il va revenir, au fond, orphelin de ce moment historique. Et ça, c'est très important.
Avec beaucoup de difficultés pour une inscription sociale et la reconnaissance de son talent. Ça aussi, il faut le souligner aujourd'hui.
D'extrêmes difficultés. Imaginez qu'à l'époque, vous avez, disons, deux figures extrêmes. Vous avez d'un côté Jean-Pierre Vernant, qui revient... qui a dirigé tout un secteur de la résistance française, qui est très jeune, qui a à peu près l'âge de Barthes, un peu plus jeune peut-être, et à qui on propose un poste de ministre. Et puis vous avez Roland Barthes qui rentre du sanatorium et qui est totalement déconnecté. Il va garder quelques amitiés du sanatorium, il a gardé quelques amitiés antérieures, mais très peu. Et il faut l'intuition... l'œil et l'oreille de Maurice Nadeau pour lui mettre le pied à l'étrier, pour lui ouvrir les pages de combat. Mais jusqu'à la fin de sa vie, Barthes, ne nourrit pas un complexe, parce que ça, ce serait psychologiser la chose, mais garde la conscience qu'il est un peu à la marge de la société à laquelle il appartient, parce qu'il n'a pas pu faire normal sub, il n'a pas pu faire l'agrégation, et il disait à la fois en s'amusant, mais...
autodidacte.
Non, pas autodidacte, mais il disait qu'il était le professeur le moins bien payé du Collège de France parce qu'il n'était pas agrégé. Et il se vivait précisément dans une relative marge des institutions. Il faut tout de même rappeler que l'institution qu'il a à un moment donné accueillie était une institution nouvelle, pionnière, marginale. C'était l'école pratique des hautes études. Et il a fait sa carrière là. Et n'oublions pas non plus qu'il a été élu au Collège de France par une voix de majorité et essentiellement par la communauté scientifique. Donc il était étranger à sa propre communauté. Ça tenait à des biographèmes qu'on a évoqués, mais je pense que ça tenait aussi à une position qui était la sienne, qui était une grande conscience des effets d'aliénation des institutions et donc une volonté de rester dans une marge institutionnelle qui permettait d'avoir un regard sur ces institutions et de ne pas se laisser réduire par elles.
Nous allons écouter un extrait de la retransmission du cours inaugural de Roland Barthes au Collège de France pour la chaire de sémiologie littéraire, c'était l'intitulé. C'était le 7 janvier 1977.
Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, je vous remercie de m'accueillir parmi vous. Je devrais certainement m'interroger sur les raisons qui ont pu incliner le Collège de France à recevoir, je dirais, un sujet incertain dans lequel chaque attribut est en quelque sorte immédiatement combattu par son contraire. Car si ma carrière a été universitaire, je n'ai pourtant pas les titres qui donnent ordinairement accès à cette carrière. Il y a fallu, couronné par celle que le collège veut bien me témoigner, la confiance d'un certain nombre d'amis dont je ne puis oublier l'appui. Philippe Rebérol, qui m'appela comme lecteur à l'Institut français de Bucarest au sortir d'une longue maladie, Julien Grémas, qui m'initia à la linguistique lorsque nous étions collègues à l'Université d'Alexandrie et traduisions ensemble l'article alors peu connu de Jacobson sur la métaphore et la métonymie, Lucien Febvre et Georges Friedman, qui m'ont permis de me former à la recherche au sein du CNRS, Fernand Braudel et mes collègues de l'École des hautes études, qui m'ont fait, voici 15 ans, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un homme, la conjonction d'un métier et d'une passion, ce qui, au dire de Stendhal, est la définition même du bonheur. D'autre part, s'il est vrai que j'ai voulu longtemps inscrire mon travail dans le champ de la science littéraire, lexicologique et sociologique, il me faut bien reconnaître que je n'ai produit que des essais, genre incertain, où l'écriture le dispute à l'analyse. Et s'il est vrai encore que j'ai lié très tôt ma recherche à la naissance et au développement de la sémiotique, il est vrai aussi que j'ai peu de droit à la représenter, tant j'ai été enclin à en déplacer la définition, à peine me paraissait-elle constituée, et à m'appuyer sur les forces excentriques, dirais-je, de la modernité, plus proche de la revue telle quelle que des nombreuses revues qui, dans le monde, attestent la vigueur de la recherche sémiologique. C'est donc manifestement un sujet impur que vous accueillez parmi vous, dans une maison où règnent la science, le savoir, la rigueur et l'invention disciplinée. Aussi, soit par prudence, soit par cette disposition qui me porte souvent à sortir d'un embarras intellectuel par une interrogation portée à mon plaisir, je me détournerai des raisons de votre accueil, car elles sont incertaines à mes yeux, pour dire celles qui font pour moi, de mon entrée au Collège de France, une joie plus qu'un honneur. Car l'honneur peut être immérité, la joie ne l'est jamais.
Vous étiez là.
Oui, c'était... C'est,
j'imagine
c'est
ce jour-là.
Et c'est très beau parce qu'à la fin, il dit aussi, hein, comme sa profession de foi, nul pouvoir du savoir, de la sagesse et le plus de saveur possible. Hein. Ce sont les derniers mots de cette leçon inaugurale. Et on voit vraiment comment, dans tous ces mots, comment il s'est présenté avec tout son être le plus intime, en fait, l'air de rien, dans ce texte. Parce qu'il dit sujet incertain, sujet impur, embarras intellectuel, et il faut pas oublier aussi que voilà qu'il y avait toutes ces questions aussi autour de l'homosexualité, hein, qui était encore un peu tabou et
alors vous en parlez dans votre texte, oui. Colette Fellouze, dans La préparation de la vie, vous parlez de ces moments où il navigue dans Paris, où les regards se portent sur lui. Hier, on a pu entendre Éric Marty qui, dans son très beau texte aussi, parle de la gêne qu'il éprouvait quand il était avec Roland Barthes et que Roland Barthes voulait passer devant ce qui était à l'époque le drugstore où attendaient certains jeunes gens, etc., etc. Est-ce que vous pensez que cette homosexualité constituait quelque chose qui pouvait gêner la reconnaissance universitaire ?
Non, je ne pense pas qu'elle gênait, parce qu'il y avait aussi Foucault, il y avait c'est pas ça, mais lui le vivait comme ça. Et je crois qu'en écrivant mon livre, d'ailleurs, je me suis dit qu'au fond, cet embarras aussi, quand il parle d'embarras intellectuel, c'est tout son rapport aussi au langage. Il nous a tellement fait comprendre que le langage c'était le corps, que la voix c'était le corps, le visage, que il fallait prendre le langage aussi à bras le corps et le dépouiller, éviter les clichés. Enfin, qu'il s'est battu aussi corps à corps presque avec la langue. Et je me suis aperçue qu'au fond, c'était aussi les corps des garçons. La langue, c'était peut-être, il parlait aussi des corps des garçons, peur d'être déçu. Donc s'il n'arrive pas non plus à écrire un roman tel qu'il l'imagine, un roman magnifique, rhapsodique, qui engloberait tout, c'est aussi qu'il a peur d'être déçu. Mais il a aussi peur d'être rejeté par son désir, par le désir des garçons. Vous voyez, il y a toujours, je ne sais pas ce que vous en pensez, Bernard Comment, mais il y a vraiment à la fois ce grand désir vers l'autre, vers le langage, vers utiliser le langage de façon somptueuse, redonner à la littérature une majuscule, retrouver un autre mouvement que le mouvement plat du simple récit. Donc il y avait effectivement toute la recherche qui était un peu son modèle, parce que c'était une œuvre totale et tellement magnifique. Mais il n'oubliait peut-être jamais dans son corps même cette peur d'être rejeté, cette peur de l'échec, cette peur de qu'on le regarde pas assez. Et c'est vrai que quand il traverse Paris et tout, dans ses textes qui ont été publiés de façon posthume, il dit je sors pour chercher des visages. Il aimait la beauté, il voulait simplement parfois regarder aussi un visage, ou toucher, ou effleurer. Et après, cet air renfrogné que j'imagine qu'il avait parfois, où il se repliait et il disait non, j'arrive pas. Et pour le roman, c'est pareil. Il a beaucoup écrit en fragments et je pense comme Bernard que c'est un vrai écrivain, et que même ses séminaires, surtout le dernier, la préparation du roman, c'est peut-être son roman le plus beau, qui est composé d'une façon extrêmement moderne, où il y a une bibliothèque entière à l'intérieur et des pistes aussi de travail. Mais il disait, il manque un tour de vis supplémentaire pour que ces fragments aient le côté filé d'un roman. Donc c'était très poignant pour moi de voir ce rapport au langage qu'il avait, mais aussi ce rapport aux garçons.
Bernard, vous avez publié un livre très passionnant qui s'intitule « Vers le neutre », où après cette passion de Roland Barthes que vous avez commencé dès l'âge de 15 ans, vous avez essayé de comprendre, d'analyser, de déplier le système de fonctionnement, de compréhension du texte en essayant de vous atteler à cette notion de neutre. Comment vous la définiriez ? Et est-ce que... vous qui avez vécu les séminaires du Collège de France, est-ce que vous pensez qu'il a gardé la même intensité ?
La question de l'homosexualité est une question complexe. Je sais que, par exemple, François Valle, qui a été l'éditeur de Barthes, qui a été un proche de Barthes, pensait intimement qu'elle était une clé indispensable pour aborder l'œuvre de Barthes. Il pensait même, je pense, qu'on ne pouvait comprendre Barthes que si on était soi-même homosexuel. J'ai jamais partagé tout en le respectant, mais j'ai jamais partagé ce point de vue. Et je dirais que la consultation des archives, la consultation du fichier, m'a confirmé ça en regard des livres. C'est-à-dire que ce qui est très frappant, c'est que l'homosexualité... Les aventures, les dragues, etc. Tout ça est très présent dans le fichier.
Mais quand donc vous regardez... Donc, il faut que vous expliquiez le fichier. Tout à l'heure, vous avez parlé des fiches de Barthes, mais vous n'avez pas expliqué à quel
le fichier,
point
c'est une méthode, c'est
ce
un
travail
système.
Était systématisé.
Barthes écrivait tous les jours des fiches qui peuvent être des citations, qui peuvent être des moments de vie, des observations, des incidents. Des épiphanies, des choses comme ça, toujours sur des petits bristoles. Et ça a constitué un énorme fichier qui est parfois très intime. Ce qui est très frappant, c'est que quand vous regardez, on regarde ce fichier, les livres, ces livres sont totalement nourris par le fichier. Mais alors, il y a le grand travail d'écriture, et je dirais de transsubstantiation, d'élévation, qui fait que tout ce côté très intime, eh bien, est porté à un niveau de généralité. Et je ne sais plus si c'est dans sa leçon inaugurale ou ailleurs, peut-être dans les fragments d'un discours amoureux, que Barthes avance quelque chose d'extraordinairement fort, qui est une contradiction dans les termes, mais qui est au plus profond de son désir, qui est l'idée de mathesis singularis, c'est-à-dire une science du singulier. Eh bien, on est exactement au cœur de ce qu'il a fait, c'est-à-dire se fonder sur l'expérience singulière, mais ne jamais, dans le livre, c'est-à-dire dans l'acte public de publication, ne jamais arriver avec ce qu'il peut y avoir de vulgaire dans l'expérience singulière, et de toujours porter ça à un niveau de généralité suffisant pour toucher à la science, sans réduire et sans abandonner le singulier. Ça, c'est vertigineux. C'est ça, le grand écrivain. Parce que ça, à mes yeux, c'est exactement la définition de la littérature. La mathesis singularis, c'est la littérature. Et ce que j'entendais aussi dans ce très bel extrait, hein, qui dit bien chez Barthes à la fois la joie et un peu le malaise d'être dans cette institution, ce qui est très fort, et il faut le rappeler, parce que Dieu sait s'il y a eu beaucoup d'opérations de récupération au fil des ans, et parfois par des gens qui lui étaient proches, il dit s'appuyer quand même principalement sur ce qu'il appelle les forces excentriques de la modernité. Eh bien, ça, il ne faut jamais l'oublier.
Moderne en 2015 ?
Moderne en 2015, moderne toute sa vie, et assurément jamais anti-moderne.
Et bientôt, une exposition à la Bibliothèque nationale de France.
Et bientôt, une exposition à la Bibliothèque nationale de France, au mois de mai. Elle est gratuite, elle durera 3 mois, et elle sera accompagnée de la publication d'un album conçu par Éric Marty, qui va, pour l'essentiel, être composé de beaucoup de correspondances, et notamment, comme une espèce de fil rouge, des éléments de la correspondance adressée à Philippe Robérolle, qu'il évoque dans ses mots du Collège de France, qui est un ami de lycée. Il y a une première lettre absolument extraordinaire qui date de l'été 1932. Barthes a 16 ans et demi, c'est une lettre de 3 ou 4 pages, qui évoque Valéry, qui est d'une maturité absolument sidérante. Et cette correspondance et cette amitié va couvrir toute la vie de Barthes, puisque les derniers éléments échangés datent de 1980, époque où Philippe Robérolle est devenu ambassadeur de France. Et effectivement, c'est une figure bienveillante et qui a beaucoup aidé Barthes dans les moments de solitude et de pauvreté qu'il a traversé dans le Paris d'après-guerre.
Merci. Je rappelle que Colette Fellouz, vous avez écrit ce texte qui s'intitule « La préparation de la vie » aux éditions Gallimard, et vous, Bernard Comand, Roland Barthes, « Vers le neutre » aux éditions Christian Bourgois. On se retrouvera demain en compagnie de Michel Salcedo et de Tiphaine Samoyau. Merci à Delphine Baudet, Corinne Amar, Élodie Royer, Vincent Lecomte, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture.